Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 16 mai 2025. Dans le cadre de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, une marche citoyenne débutera à compter de 16 heures au Club social Victoria, situé au 170 rue du Cardinal Maurice Roy. La marche terminera à la place de l'Université du Québec. Plusieurs animations musicales et des spectacles visant à divertir les participants tout en favorisant les échanges sont prévus. Les activités se poursuivront jusqu'à 20 heures. Proclamée en 2017 par les Nations unies, la Journée internationale du vivre ensemble en paix rappelle que la diversité et l'inclusion sont des piliers essentiels d'une société harmonieuse. Selon l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, chaque dollar investi dans le logement social et communautaire rapporte plus qu'il ne coûte. C'est ce que démontre une étude sur les retombées sociales et économiques des investissements dans le logement social et communautaire de la Société d'habitation du Québec, dévoilée plus tôt cette semaine. Soutenue par un nombre important d'organisations de l'écosystème de l'habitation, cette étude révèle des gains nets annuels de 162 millions de dollars pour les finances publiques, ainsi que des effets humains significatifs, notamment la prévention de l'itinérance. À compter de 17 heures ce soir, la place Georges V se transforme en un espace festif et chaleureux pour le lancement officiel de la 3e édition du festival AfricaFest Québec. L'ambiance musicale sera assurée par les artistes Calu, DJ Ogarosco et DJ King Mervin. Le 5 à 7 de lancement sera immédiatement suivi du premier concert signature avec l'artiste Boubé. Le festival AfricaFest Québec est une célébration annuelle de la richesse et de la diversité des cultures africaines et afrodescendantes. Plus de détails sur isambacentre.ca/festivalafricafest. Le Festival Québec en toutes lettres lance un appel à candidature auprès de comédiens et comédiennes, conteurs, conteuses, écrivains, écrivaines et poètes habitués à la scène, aux performances publiques ou à l'animation, afin de sillonner divers quartiers de Québec pour distribuer des cartes postales poétiques dans les boîtes aux lettres et interagir avec les personnes rencontrées en chemin, dans le cadre de la programmation de sa prochaine édition en octobre 2025. Les artistes intéressés ont jusqu'au dimanche 8 juin pour soumettre leur candidature en se rendant sur quebecentoutelettres.qc.ca. La 2e édition de la Semaine du patrimoine se tiendra du 17 au 25 mai 2025. Pendant les 9 jours de l'événement, les citoyens et citoyennes pourront profiter de nombreuses activités gratuites et accessibles. La programmation complète de l'événement est disponible sur le site Web de la Ville de Québec. Réservation obligatoire pour certaines activités. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Chaque matin était une invitation enjouée à m'assurer que ma vie fût aussi simple, aussi innocente, pourrais-je même dire, que la nature elle-même. Je fus un adorateur d'aurore, aussi sincère que pouvaient l'être les Grecs. Je me levais tôt et me baignais dans l'étang, C'était un exercice religieux et une des meilleures choses que je fis jamais. Le matin, faire renaître les âges héroïques. J'étais aussi touché par le vrombissement subtil d'un moustique faisant sa ronde invisible et inimaginable dans mes appartements aux premières heures de l'aube, portes et fenêtres ouvertes, que j'eusse pu l'être par aucune trompette ayant jamais sonné l'air de la renommée. C'était le Requiem d'Homère. Son vol était à lui seul l'Iliade et l'Odyssée, chantant sa colère propre et ses propres errances. Cela avait quelque chose de cosmique, comme une déclaration perpétuée jusqu'à ce qu'on l'interdit de l'éternelle vigueur et de l'éternelle fertilité du monde. Le matin, qui est la période la plus marquante de la journée, est l'heure du réveil. C'est au matin que nous avons le moins de somnolence en nous, et l'espace d'une heure au moins, une part de nous s'éveille qui demeure en sommeil tout le restant du jour et de la nuit. Il y a peu à espérer d'un jour, si l'on peut l'appeler jour, à l'aube duquel nous ne sommes pas réveillés par notre génie propre, mais par l'action mécanique de quelques serviteurs. Un jour où nous ne sommes pas réveillés par notre force et nos aspirations internes nouvellement recouvrées au son des accents mélodieux de la musique céleste et non de la cloche d'usine, tandis qu'un vif parfum vient emplir nos narines. Nous nous éveillons alors à une vie plus haute que celle en laquelle nous nous étions endormis, et c'est ainsi que les ténèbres portent leurs fruits et s'affairent bénéfiques tout autant que le jour.
Je ferai mes vêtements de terre chaude et douce. Ils auront l'odeur du sapin. Après l'orage, je ferai ma cabane de feuilles et de racines, couleur de saison, en compagnie des arbres. Le vent enlacé de l'être sera toujours là. Je ferai mon chemin de glaise et d'argile.
Bienvenue en toute simplicité. Tout à l'heure, je vous ai lu un extrait de Walden, le même que j'avais lu la semaine dernière, pour deux raisons. Premièrement, c'est un de mes extraits préférés de Walden, qui parle du matin, et aussi à cause de la petite anecdote concernant le maringouin qui, à lui seul, son vol, à lui seul, l'Iliade, était à lui seul l'Iliade et l'Odyssée. Alors, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler d'animaux, de notre lien aux animaux. On va avoir comme invité Odile Tremblay, qui a écrit un très beau livre qui s'intitule « Le bestiaire a pas perdu ». Alors, on va parler de ça tout à l'heure. Avant d'aller avec Mme Tremblay, juste quelques petites lectures ou choses que j'ai vues cette semaine. On ne peut pas passer sous silence le départ d'un grand simplicitaire, Serge Mongeau, qui est décédé cette semaine. On dit dans Le Devoir que c'était le père de la simplicité volontaire au Québec. En tout cas, c'est lui qui a fait connaître la simplicité volontaire au Québec. Le militant Serge Mongeau, père de la simplicité volontaire, c'est dans Le Devoir de mardi. Le père de la simplicité volontaire au Québec, Serge Mongeau, est décédé le 9 mai après avoir eu recours à l'aide médicale à mourir. Quoi dire? Nous, notre émission porte sur la simplicité volontaire. Alors, on doit beaucoup à Serge Mongeau, qui a vraiment fait connaître la simplicité volontaire. On dit que c'est en 1985 que paraît le petit ouvrage « La simplicité volontaire » dont le titre évoque un concept de vie minimaliste qui collera à la peau de Mongeau. Paradoxalement, le nom de l'auteur de cet essai à contre-courant de la société consumériste n'apparaît même pas sur la couverture de la première édition. L'ouvrage révolutionnaire connaîtra un second souffle par la suite, à la suite de sa réédition en 1998. Pour arriver à la simplicité volontaire, il faut avoir goûté à la consommation et en être dégoûté, expliquera son auteur dans une entrevue accordée à Radio-Canada. Ce livre-là, c'est lui qui a mis en 98, c'est sa deuxième édition là, qui a vraiment fait connaître la simplicité volontaire au Québec. Alors voilà. Puis on a un autre grand simplicitaire qui est parti. Lui, on le connaissait moins, mais moi, j'avais vu un peu ce qu'il faisait. C'est l'ancien président de l'Uruguay. Il s'appelait Pepe Mujica. C'est un autre texte. En fait, c'est une photo dans Le Devoir de jeudi. Merci, Pepe. Entre larmes et applaudissements, des milliers d'Uruguayens ont commencé mercredi à dire adieu à leur populaire ancien président José Mujica. M-U-J-I-C-A, figure de la gauche latino-américaine décédée à la veille d'un cancer à l'âge de 89 ans. Alors, lui, il vivait très simplement. C'était le président de l'Uruguay, mais c'était un homme qui vivait dans la simplicité, un peu comme l'empereur de Marc Aurèle. Évidemment, je ne peux pas aussi ne pas parler des oies qui sont là ces jours-ci. Ben, quoi d'autre? Ça rend le mois de mai joyeux. J'aime beaucoup les... Moi, je suis chanceux parce que je passe près du fleuve là, à chaque jour et quel beau spectacle de voir les oies. En tout cas, je vous invite à aller en profiter pendant qu'elles sont encore là. Dernière chose, il y a le petit l'hebdo, le 1, numéro 544, un petit journal revue français qui a toujours des thème intéressant. Chaque numéro porte sur une thématique, puis le numéro qui est en kiosque présentement, c'est « Demain, tous allergiques ». Les allergies augmentent. Et, on dit dans le petit journal que dans les années 70, c'était environ 7 ou 8 % de la population qui était allergique. On est rendu maintenant à 30, puis on prévoit qu'en 2050, ça sera 50 % de la population qui aura des problèmes d'allergie. Et d'ailleurs, ça commence ces temps-ci avec les allergies au pollen. Voilà, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, c'est dans le dernier, le 1 hebdo, numéro 544. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va jaser avec Mme Tremblay de son livre sur les animaux.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
C'était Nina Simone, I'm Feeling Good. Avant, au début d'émission, on avait Richard Séguin, ça s'appelle Tout près de l'étang, de son album Retour à Walden. Alors, Madame Tremblay, est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Alors, avant de commencer à parler du livre, juste pour les auditeurs, peut-être qu'il y a des... Parce que moi, je vous connais parce que je lis Le Devoir, puis vous avez été longtemps chroniqueuse culturelle au Devoir, mais c'est peut-être pas tous nos auditeurs qui vous connaissent. Alors, juste, pouvez-vous nous parler un peu de vous?
Ben écoutez, moi, je suis journaliste. J'ai été au Devoir plus de 30 ans. J'étais en cinéma, en littérature. Après ça, je suis resté un peu en cinéma. Puis là, j'ai eu une chronique culturelle depuis la fin des années 90. Et là, donc, ça impliquait tous les secteurs, là, le cinéma, les arts visuels, la littérature, enfin tout. Mais aussi, c'était un commentaire sur l'actualité culturelle, parce qu'il se passe il se passe des choses, puis il s'en passe depuis longtemps, là. Quand je suis parti, un peu plus d'un an, je trouvais déjà que la culture était en déclin pour mille raisons. Il y a l'histoire des plateformes, mais il y a aussi les changements apportés par la pandémie dans les habitudes des citoyens. La pandémie a changé beaucoup, beaucoup de choses sur le plan psychologique là, chez les gens. Avant la pandémie, entre autres, bon, là, je déborde de la culture, mais enfin, il y avait des grands rassemblements de jeunes pour dénoncer les problèmes environnementaux. Puis la pandémie a comme coupé des élans, tu sais, des élans vers la gauche, entre autres, puis aussi vers le bon sens, là, tu sais, qu'il faut protéger nos ressources. Et puis, mais aussi sur les habitudes de consommation. Les gens, après ça, sont moins sortis. Ils s'habituent à voir... des œuvres sur écran, puis les livres même, ils voient plus sur écran. Enfin, bref, moi, je pense, j'ai pas de statistiques, mais je pense vraiment que les gens lisent moins. Ils ont lu pendant la pandémie, mais après, ils ont arrêté. Puis, c'est un grand malheur parce que c'est pas le même type de concentration. Pour des écrans, mettons, les gens regardent une nouvelle, c'est pas long. Puis, donc, il y a eu une espèce de fragmentation du temps de concentration qui fait que la lecture d'un livre, surtout d'un livre qui n'est pas de pur divertissement, est rendue trop difficile pour l'époque, aussi bête que ça. Donc, moi, ça m'apporte beaucoup de crainte.
Oui, c'est... Bien, justement, parlant de livres, j'ai lu votre livre, qui est un beau petit livre. Juste la présentation est belle. Il y a des belles gravures d'animaux. C'est sur les animaux. Le bestiaire a pas perdu. Ça parle vraiment. On voit bien que vous aimez les animaux. Puis c'est rempli de petites anecdotes. En fin de compte, c'est un peu aussi, un peu beaucoup même autobiographique. Puis c'est comme des petites... c'est plusieurs petits textes, mais très denses. Hein? Ça demande beaucoup de concentration. Alors, lire ça, 225 pages, mais dense. Même, il fallait souvent que j'aille consulter sur Google, voir. Vous faites référence, il y a beaucoup de. Vous faites référence à toutes sortes de choses que je ne connaissais pas souvent. Ça fait que. Ben, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, parce qu'on a une émission de philosophie, là, le chapitre sur la tortue. C'est le chapitre peut-être qui est le plus philosophique de tous. Puis j'avais déjà entendu parler, mais c'est ça, vous parlez d'Érasme. Vous dites hâte-toi lentement, lance-t-elle à la suite d'Érasme aux sprinteurs de tous les sentiers avant de les voir s'effondrer à bout de souffle. Puis je disais, hâte-toi lentement, j'avais déjà entendu. Puis là, j'étais voir un peu là, sur Google. OK, c'est Érasme qui a fait connaître ça, mais dans le fond, ça vient des Romains. En tout cas, c'est des exemples comme ça. Il a fait référence à différentes choses qui demandent à les fouiller un petit peu souvent. En tout cas, peut-être que les gens connaissent ça, mais moi, qui fais de la philosophie, je l'avais déjà entendu, cette locution-là, mais je ne la connaissais pas.
Mais dans ce livre-là, j'essaie que ça soit quand même très léger.
Oui.
Je sais, j'ai mis beaucoup d'humour, j'ai mis de la poésie. Et puis, j'y raconte des anecdotes qui me sont arrivées réellement. Donc, c'était ça le défi, là, c'était de trouver assez d'animaux dans ma vie. Qui pouvait justifier une nouvelle pour en avoir assez pour faire le livre. Ça fait que au début, ça allait bien. Puis après ça, je marquais des noms tout à coup qui me revenaient, des noms d'animaux. Et donc, c'est souvent dans l'enfance, c'est dans les voyages, c'est à travers le Québec aussi. Et puis, c'est ça, je raconte des nouvelles comiques souvent, et puis des fois touchantes, j'imagine. Parfois surréaliste, là, tu sais. Mais je pense qu'on, même si on connaît pas le sens, mettons, de certaines citations, c'est pas grave. Il me semble qu'on peut le lire. Il me semble que ça se lit tout seul. Ça, c'est ce que je pense, moi.
Oui, ça se lit tout seul. Mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même dense. Chaque petite histoire, il y a quand même une certaine densité. Juste ici. Si on regarde, par exemple, sur la sauterelle, si quelqu'un m'avait prévenu un jour que j'allais tomber en amitié avec une sauterelle géante, j'aurais gaiement souri. L'espèce invasive m'évoquait surtout les ravages d'une des 10 plaies d'Égypte. Mais sait-on jamais ce qui nous pend au bout du nez? Notre brûlante relation se noua lors de mon séjour à Dubrovnik, en Croatie. Bien là, on fait référence avec la guerre... En Croatie, j'avais pris un de ces autocars dans lesquels s'entassent des voyageurs qui n'ont rien à faire ensemble, sinon, le cas échéant, partir visiter Mostar en Bosnie-Herzégovine. Puis vous étiez là à ce moment-là, je pense.
Je suis allé après, mais après. C'était comme si tout était resté en état, parce que, à Mostar, le vieux pont s'était effondré à l'époque, et puis à cause des tirs, là. Et... après ça, ils avaient retrouvé les ponts dans les pierres dans la rivière. Ils avaient donc reconstruit le pont. Quand je suis allé, ben là, le pont avait été reconstruit, mais toutes les façades avaient des trous de balles. Puis eux autres, ils vendaient là, tu sais, dans les marchés parce que tu sais, l'artisanat, c'était des stylos qui étaient faits à partir de balles, qui étaient une ressource inépuisable là-bas.
Fait que c'est ça, là, il y a des anecdotes sur finalement la Bosnie après la guerre, un peu après la guerre. Puis là, vous arrivez tout d'un coup, puis vous parlez, c'est au cours d'une escale sur le chemin du retour que le petit animal m'a regardé dans le blanc des yeux. Le car avait effectué un arrêt devant une vieille cave à vin où tous s'en couvraient. Mais là, vous rencontrez une sauterelle, puis c'est le finalement, c'est le chapitre de la sauterelle part du voyage en Bosnie, une introduction sur l'histoire de la Bosnie, puis tout d'un coup, on est rendu avec une sauterelle, puis ce que vous vivez avec la sauterelle.
Ce qui est arrivé, c'est que on avait, donc, il allait visiter une cave à vin, c'était une espèce de petit port là, qu'on avait pris pour une excursion, puis moi, ça m'intéressait pas. Hein. Et puis, j'étais remonté au rez-de-chaussée, puis là, il y avait une sauterelle géante qui s'était égaré à l'intérieur, et puis bon, là, je vais sauver la sauterelle. Ça fait que je l'ai pris dans ma main, puis là, je l'ai amené dehors, tu sais, pour qu'elle vive, tu sais. Mais là, elle voulait plus me quitter mon bras, elle voulait pas... Elle frottait sur moi avec amour, écoutez, c'est comme un chaton, mais tu sais, c'était toujours bien une sauterelle géante. Puis là, on se parlait, parce qu'on communiquait par télépathie. Puis à un moment donné, quand les gens sont revenus, ils sont tous revenus chacun leur tour. D'en bas, la sauterelle était toujours sur mon bras. Et là chacun réagissait. T'sais. Il y avait un petit Américain, il avait peur. Puis j'ai dit non, c'est beau, tu peux y toucher. T'sais, elle s'en allait pas. Puis après ça, il arrive une espèce de Française, pimbèche, qui me regardait. Elle trouvait que j'avais des drones de fréquentation. Une sauterelle. Après ça, il arrive une espèce de. C'était un type. Qui me regardait de haut depuis le début. C'était un tzigane qui était italien. C'est du clan des Zingaro. Et là, tout à coup, il voit ça, puis il dit, mais il faut parler avec les Allemands, tout ça. En fait, je suis italien, mais je comprends. Bon, on se parle. Là, j'ai dit, ben oui, c'est signoré. Et là, tout à coup, il s'est mis à me respecter. Là, tu sais, follement, je pense que dans sa culture, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui pouvaient communiquer avec les animaux, c'est mon cas des fois. Là, tu sais. Ça fait que, à un moment donné, bon, quand il a fallu que je reparte, j'ai parlé à la sauterelle. J'ai dit, écoute, il faut que je m'en aille. Je suis obligé de te laisser. Puis là, je ne pouvais pas, je l'ai dit, c'est en espagnol. On était en Italie. En tout cas, bref. On n'était pas en Italie. On était en Croatie. Mais là, tout à coup, au moment où j'ai dit adios, elle s'est envolée. Mais là, dans le cadre du retour, là, tout le monde parlait de ça parce que c'était quand même assez inusité. Et là, moi, je parlais pas parce que c'était arrivé, puis j'étais ému, tu sais. Et puis, j'avais eu un vrai contact psychique avec elle. Et aussi, puis je regardais, je trouvais ça beau, tu sais, je regardais comment c'était formé, tu sais, les pattes en équerre, les antennes, puis un beau vert, tu sais, elle était belle, puis au fond, elle m'avait adoptée, tu sais. Ça fait qu'il y a toutes sortes d'histoires dans le livre, c'est toutes des... C'est une série de nouvelles, il y en a 27, dans chacune de ces nouvelles-là, il y a quelque chose qui m'est vraiment arrivé, OK? Comme à un moment donné, tu sais, j'ai eu 8 ans, je suis dans un zoo aux États-Unis avec mes parents, puis là, il y a une girafe, son long cou... Elle a tendu son long cou du grillage, son grillage, puis au bout du cou, au bout de sa bouche, il y avait une très, très, très longue langue noire, très mince, et elle m'avait embrassé dans le cou. Et là, les adultes s'est mis à crier, parce qu'ils sont nono, là, un mieux vaut être un enfant. Ça fait que... mais là, après ça, je raconte tout ça, tu sais, mon contact avec elle, et puis le fait qu'elle m'avait embrassé comme ça... Puis que nous, on était contentes, elle et moi, Donc, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. Et puis, donc, c'est ça, mais aussi ma mère. C'est bon, maman. Moi, j'avais une mère pleine de fantaisie, là. On dirait une mère tripante, là. Mais, elle avait, je raconte ça, elle avait été élevée par des chats. C'est-à-dire que sa mère, à elle, était au sanatorium, puis après ça, elle était la cadette, puis les autres l'envoyaient promener. Le père, bon, il s'occupait pas de ça. Il y avait du personnel qui s'occupait de juste l'habiller, puis l'envoyait à l'école. la faire manger. Mais elle, les seuls êtres qui lui apportaient de l'affection, c'était ses chats. Et quand on, nous, après, quand on les a connus, et plus tard, donc, quand elle a été elle-même une mère, elle était restée un peu une chatte, bizarrement. Et elle nous racontait tout comment étaient ses chats, mais elle ne parlait jamais du reste de sa famille. Donc, pour nous, les chats nous avaient tenu lieu de grand-mère. Tu sais. Puis aussi, on ne peut pas parler d'affection, tu sais, ça ne se faisait pas chez nous, mais c'était juste des mots de chat, tu sais, maman, on peut juste des mots de chat. On disait rou, rou, frout, frout, ça voulait dire je t'aime, j'imagine. Mais. Donc, je considère que j'ai eu. Je sais que c'est, ça peut sembler bizarre, mais que j'ai eu une grand-mère, des grand-mères chattes. C'est ça que je raconte tout ça. Et puis, il me semble qu'il y a toutes sortes d'anecdotes que moi je trouvais drôles, mais bon, chacun. Aussi, je parle des moustiques à un moment donné, mais là, des moustiques, ils m'énervent comme ils vous énervent, tu sais. Mais je, c'est un jeu, tu sais. C'est un jeu aussi littéraire.
Mais. Il y a aussi, on le sent, une grande affection pour les animaux, une tendresse.
Il y a une grande affection, puis aussi une grande crainte. Là, il y a près de 70% des espèces qui sont disparues depuis les années 70.
Oui.
Ah,
oui,
il y a la pollution, on s'entend, là, mais il y a aussi les habitats naturels qui disparaissent.
Ouais.
Pour l'agriculture, il y a la surexploitation, il y a le braconnage, puis il y a les changements climatiques, mais ça touche toutes les espèces qui sont en déclin. Il y en a qui disparaissent, mais il y en a qui sont sérieusement en déclin. Donc, c'est aussi un cri d'alarme, parce que je voulais pas juste raconter des histoires pour le fun. C'est plein de cris d'alarme.
Oui. Et d'ailleurs, on parle dans Le Devoir d'hier, là, des caribous forestiers là, en Gaspésie qui sont encore menacés. Là.
Mais c'est ça. Mais dans mon livre aussi, je parle de ça. Comme à un moment donné, je suis allé à l'île Maurice, aux Antipodes. C'est là qu'il y a un animal mythique, un oiseau, qui s'appelle le dodo, et qui est disparu, mais au 16e siècle. Puis c'est le symbole des animaux disparus par la main de l'homme. Tu sais, c'est quand il y a eu... les Néerlandais sont arrivés, puis là, il n'y avait pas de prédateurs. Cet oiseau-là, ses ailes étaient atrophiées, puis il faisait des gros nids à même le sol. Tout le monde. Là, les chiens sont arrivés, les humains, les singes, enfin, tout ce que traînaient, les humains, les rats. Et là, il est rapidement disparu. Alors, moi, je savais qu'à l'île Maurice, il y avait un spécimen empaillé, puis sur les traces du dodo. Je raconte tout ça. Et puis, le dodo, il était dans la liste au Pays des Merveilles. Puis, il a beaucoup survécu à cause de la littérature et des films, parce que, évidemment, Walt Disney l'a adapté. Donc, il y a d'autres générations qui ont appris à connaître le dodo. Et donc il y avait à l'île Maurice aussi un petit îlot, parce qu'au fond, c'est un archipel, l'île Maurice. Et sur le petit îlot, ils avaient un centre de préservation et de la faune et de la flore, parce qu'ils avaient des espèces endémiques qui avaient juste à l'île Maurice, ou sur les îlots. Et là, moi, j'avais vu que ça existait, ben, c'était même pas ouvert au public. J'avais pris un autocar, puis je m'étais rendu jusqu'au petit village en face, puis là, je ne sais pas pourquoi je les avais pas appelés. Et là, il y avait un jeune pêcheur, là. Je lui ai donné de l'argent, puis j'ai dit, amène-moi sur l'îlot. Puis là, on fallait traverser une barrière corallienne. Et là, donc, j'arrive sur l'îlot. Et là, normalement, ils auraient dû me chasser, parce que je peux pas arriver comme ça sans me prévenir. Mais là, au lieu de ça, ils m'accueillent à bras ouverts. Ils me montrent des espèces qui avaient réussi à sauver. C'est des pigeons roses, entre autres, qui étaient uniques, là, endémiques à l'île Maurice. Et donc, ils essayaient, parce que c'est tellement devenu un symbole, l'affaire du dodo, qu'il y avait comme un devoir de mémoire. Puis en plus, après le dodo, il y en est disparu d'autres espèces à l'île Maurice. Et là, donc c'est toute l'occasion aussi d'expliquer l'histoire. Parce que moi, je suis journaliste, normalement. Alors, donc, j'ai gardé ça en moi, là aussi, le plaisir d'expliquer un peu, là, tu sais, l'histoire du dodo. Donc, c'est ça aussi, tu sais, qui est dans le livre. Il y en a qui sont plus littéraires, il y en a qui sont vraiment plus poétiques. Tantôt, il était question là, de la tortue philosophe, mais
oui,
c'est évident que toute une partie c'est plus du réalisme poétique, là, tu sais, parce que que je les fais communiquer avec là au-dessus des grands philosophes chinois.
Madame Tremblay, on va prendre une petite pause musicale. Okay. Puis au retour, on va parler plus par rapport à notre rapport aux animaux. Comment moi, je sais que vous avez un très beau rapport aux animaux, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait communiquer à nouveau, qu'on pourrait améliorer notre rapport aux animaux.
Tu te rappelles, j'avais bien apprivoisé. Elle se nichait toujours dans mes oreilles ou bien dans mes fosses nasales. Mes amis disaient « Attention, il y a une fourmi qui te sort du nez. » Et ils faisaient mine de la tuer. « Non, ne la tuez pas. Laissez-la vivre, disais-je. » Ma fourmi s'appelait Noémie. Je l'avais trouvée à Naomé, non loin de Niamey. Vous connaissez ? Elle aimait se balader sous les coquelicots, escalader leurs tiges, monter sur les pétales. Parfois, elle prenait un pétale de coquelicot comme tissu pour s'en faire une robe. Elle aimait la couleur. Elle était très coquette, Noémie. Elle était très jolie aussi. Elle avait une taille de guêpe. Quand j'écrivais dans un cahier, elle courait d'un bout à l'autre de la page. Elle faisait ses petits 100 mm, disait-elle. C'était son jogging à elle, ma fourmi Noémie. S'il m'arrivait de faire une tache d'encre, elle se roulait dedans avec délectation. Elle avait de l'encre partout, sur les antennes, les mandibules, l'abdomen. Alors elle écrivait des mots en langue fourmi avec tout son corps, avec ses 6 pattes. Elle pouvait écrire 6 mots en même temps, sacrée Noémie. Et en plus, tous des mots différents. Je me demandais comment tant d'intelligence pouvait tenir dans une tête pas plus grande qu'une tête d'épingle. Et dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des têtes si grosses et qui ne sont même pas capables de s'en servir, dites. Avoir des cerveaux si grands et n'être même pas capable de penser. Quand je pense que ce sont les baleines qui ont les plus grands cerveaux du monde et que ce sont des petits blancs becs de petits cerveaux jaloux de leur cerveau immense qui décident de les mettre en tranches et que c'est à cause de ces mini-mini cerveaux de minus que les baleines se font rares. Ce n'est pas le cas des fourmis. Les fourmis, ça fourmille. Des fourmis, il y en a des milliards. Et j'en oublie. Mais aucune, non vraiment, aucune, comme ma fourmi Noémie. Parfois, quand j'étais malade, je l'envoyais promener dans mon corps, voir ce qui ne tournait pas rond. Elle suivait les poteaux indicateurs à l'intérieur. Elle allait faire avec ses petites pattes de l'acupuncture directe, à même l'organe déficient. Elle me donnait des nouvelles de mon intérieur qu'elle trouvait charmant. « Très design, disait-elle. Si j'ai une santé de fer à l'heure qu'il est, touchant du bois, c'est à elle, bien sûr, que je le dois, à ma fourmi Noémie. Il naît de si belles rencontres qu'il n'est hélas une fin. Un jour que je roulais à vélo dans la forêt, je sentis une fourmi dans une de mes jambes. Je me doutais bien que c'était Noémie. Elle s'accrochait à 6 de mes poils avec 6 pattes, mais j'allais tellement vite qu'elle lâcha prise et piqua du nez. Mes freins tambours ne sont pas des ABS. Je ne pus hélas m'arrêter tout de suite et je perdis toute trace de ma fourmi Noémie. Si vous venez me voir, et si vous voyez sur l'escalier de ma maison une fourmi bien de sa personne qui fait mine de rentrer, s'il vous plaît, ne l'écrasez pas. C'est peut-être Noémie qui revient chez moi.
Alors, c'est une petite comptine de Julose Boucan et la fourmi Noémie de Julose Boucan. Je pensais que ça vous ferait plaisir.
C'est joli.
Oui. Alors, c'est un peu aussi l'ambiance qu'il y a dans votre livre, là, une espèce de relation de tendresse avec tous les animaux que vous nous présentez. Puis, entre autres, je pense au chapitre sur le crapaud. Les crapauds font partie, entre autres, des mal-aimés. Puis vous, dans votre chapitre, là, vous travaillez à réhabiliter le crapaud, que moi, je trouve un bel animal, là, mais qui ça fait partie des mal-aimés.
Je raconte une anecdote là-dedans. Quand j'étais enfant, je devais avoir 8 ans, j'étais avec mon frère, puis il y avait des sœurs dominicaines qui avaient des grands bâtiments là, pour les prêtres en fin de... en retraite. Et puis, il y en avait un qui était fou, mais vraiment fou. Puis, il était arrivé devant nous, puis moi, j'avais des shorts, mais j'avais 8 ans. Là. Puis là, il nous avait dit, les crapauds du ciel vous tomberont sur la tête. Mais là, évidemment, à cet âge-là, on est impressionné. C'était comme un anathème, là, tu sais. Et là, on n'a jamais oublié ça. Moi, je le raconte dans le parti crapaud. Mais j'explique aussi que les crapauds, ils font partie des décoctions, des sorcières dans leur grand chaudron. Je me considère un peu sorcière. Mais moi, j'aime les crapauds. D'abord, j'aime leur cri. Je vois les entendre, moi, quand j'entends des crapauds. Puis aussi, rappelons là, que Félix Leclerc, là, à la fin de l'hymne au printemps, c'était « Et les crapauds chantent la liberté ». Donc, lui aussi, il avait réhabilité les crapauds. Il faut arrêter d'avoir tous ces préjugés. Remarquez, moi, j'ai une phobie, celle des vers de terre. Ça finit mon mystère à pas perdu. Là. Donc, il y a des trucs irrationnels aussi. Mais enfin, c'est pas de leur faute. Là. C'est moi. Et ça vient de l'enfance. Donc, oui, on peut avoir des préjugés contre certains animaux. Surtout, les moustiques, c'est un peu normal. Mais enfin, il faut en avoir le moins possible, puis il faut s'en rendre compte, parce que, à un moment donné, moi, j'entendais des gens qui disaient, s'occuper du combat des animaux, c'est ridicule, il faut s'occuper, mettons, des gens qui battent leurs enfants, mais c'est les mêmes. C'est la faiblesse, la vulnérabilité qu'ils battent, t'sais, que ce soit un animal ou un enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose dans l'esprit de celui qui bat. Et donc, je me dis, au contraire, c'est le même combat. Le combat, c'est d'essayer d'aider les gens qui ont des réflexes pareils. Il y en a qui torturent les animaux. Il y a sur le temps aux infos. Et puis, il y a aussi tous les animaux qui disparaissent. Et puis, à un moment donné, on les revoit à peine. Tu sais, moi, j'étais une enfant un peu intello. Mais j'avais une grande collection de papillons. Et puis, je raconte ça. Mes parents, aujourd'hui, ils seraient arrêtés par la police. Mais il m'avait donné, quand j'avais 8 ans, il m'avait donné un pot de cyanure de potassium pour tuer mes papillons, parce que dans ce temps-là, j'étais une chasseresse. Et donc, mais moi, j'avais compris qu'il fallait pas que je le mange, qu'il fallait pas que je mette mon nez dans le fond, tu sais. Puis, donc, mais aujourd'hui, je suis resté sensible à la cause des papillons, parce que j'ai longtemps vécu à leur compagnie, mais là, je vois bien, tu sais, puis on le sait, là, que, tu sais, les papillons monarques, il y en a presque plus, il manque d'asclépiades, parce que c'est aussi que ça leur prend des habitats, ça leur prend leur nourriture, tu sais, eux autres qui mangent juste des asclépiades. Bref, c'est nous le problème. Ce que j'essayais, tu sais, dans ce livre-là, c'est d'expliquer que c'est nous le problème, tu sais. Tu sais, les animaux... les autres, on est sur leur territoire carrément, qu'on réprécie un corps perdu. Et on leur enlève ce dont ils ont besoin. Puis aussi, on détruit toute la chaîne alimentaire. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus la mode. C'est encore moins la mode depuis que Trump est là. Mais c'est plus la mode, même dans les autres démocraties. Là, François Legault, bon, il a décidé qu'il y avait une acceptabilité pour la pipeline. Dans le bout de cette île, mais attendez, là, d'abord, il y a les droits des Autochtones, ils sont assez fait avoir. Puis, deuxièmement, c'est juste l'acceptabilité. Mais si on parle d'acceptabilité, tant qu'à ça, on réhabilite la peine de mort. Vous comprenez, il y a des gens qui sont pour la peine de mort. On se demande pas si on fait pas un sondage pour savoir si les gens sont en faveur de la peine de mort. C'est tout, il n'y en a pas ici. Et donc, c'est pareil pour les histoires. C'est pas l'acceptabilité sociale, c'est le fait qu'un gouvernement responsable décide, pour des raisons environnementales, qu'il n'y aura pas de pipeline ou qu'il y en aura une. Mais en fait, vous comprenez, ce ne sont pas des arguments qui me plaisent. Et c'est dans tous les pays, en ce moment, c'est en déclin. Tout le combat de l'environnement. Or, c'est fondamental. Puis aussi, ces gens-là, souvent, ils ont des enfants. Là, ce qu'ils s'imaginent, que leurs petits-enfants vont suffoquer, que les villes comme Québec, là, qui est au bord, vraiment au bord de l'eau, ça va être inondé. On dirait qu'ils ne se projettent pas dans l'avenir. Parce que puis aussi l'avenir de leur descendance ou pas, c'est l'avenir de l'humanité, mais et aussi de tout ce qui peuple la Terre, tu sais. Vraiment, on est une telle inconscience, là, parce qu'on le savait. On savait que, on sait depuis longtemps, on peut pas nier. Mais si, si c'est en déclin, l'intérêt pour l'environnement, parce que, justement, les gens, ils pensent plus à l'économie, puis que les autres, au lieu de prendre une vraie décision sensée, en fonction de l'environnement qui va nous tuer, tu sais, faut pas se raconter d'histoire, quoi, en tout cas, qui va tuer les prochaines générations. Ben, à ce moment-là, tu sais, l'acceptabilité sociale, c'est plus ça, là. Il y a des enjeux qui sont supérieurs, mais là, plus personne. Je vois bien dans tous les pays, soi-disant démocratiques, en déclin, puis je ne dis pas les autres, puis il y a aussi un problème des richesses bon, il y a des grandes richesses, et puis les autres sont pauvres, surtout dans les pays du Sud. Mais là, à cause des inégalités sociales, ça fait aussi que dans toutes sortes de pays, ils vont détruire les gens, tu sais, parce que pour faire pousser que une certaine agriculture qui a des fonctions commerciales puisse vivre, puis on les comprend. Mais moi, j'en ai vu de ça. Moi, j'étais allé à un moment donné à Bornéo, et puis tous les orang-outans, les naziques, toutes sortes d'espèces qui disparaissaient parce qu'ils faisaient pousser de l'huile de palme. Mais puis il y avait au bord d'une rivière une toute petite bande de terre où ils vivaient encore. Et là, c'était comme un zoo à ciel ouvert puisqu'il n'y avait pas d'autre territoire. Mais tu sais, c'était comme scandaleux, tu sais. Alors, c'est sûr, on pouvait trouver toutes sortes d'espèces. Mais tu sais, ces espèces-là, c'est parce qu'ils étaient en perdition, tu sais. Et vraiment, on est irresponsable. C'est comme si les humains n'étaient pas collectivement assez intelligents pour se sauver eux-mêmes ou sauver leur espèce.
Mais c'est,
toutes les autres espèces.
On n'a pas un beau... En tout cas, peut-être pas tout le monde, mais on n'a pas un beau rapport aux animaux, parce que les animaux, dans le fond, sont vulnérables, sont candides, et nous, on est loin d'être candides avec les animaux, puis on est plutôt tendance à avoir un rapport qui est malsain. Souvent, on a peur des animaux ou on les dégrade. Là, dernièrement, il y avait dans le journal un article, on parlait du fameux mythe là, de la grenouille qui, c'est quand on monte l'eau chaude, la grenouille.
Mais c'est pas vrai.
Puis c'est pas vrai, ça a été démenti par la science. Puis derrière ça, c'est que ça dit.
C'est démenti par la science,
oui. Puis ça dit, dans le fond, ce que ça dit, le message en arrière de ça, c'est que les grenouilles ne sont pas intelligentes. Et ce qui est faux, la grenouille, quand elle sent que l'eau chauffe, ben elle sort de l'eau, c'est pas compliqué.
Elle ne se pas, moi, c'est pas vrai. Oui. Mais mais cela dit, il y a des animaux domestiques, il y a des bons maîtres, puis il y en a qui ont vraiment des rapports formidables avec leurs animaux domestiques.
Oui.
OK, on s'entend,
oui.
Là. Puis il y en a qui battent aussi, puis il y en a qui comprennent rien, mais il y a des gens pour qui c'est vital, là. Il y a des personnes âgées qui sentent leur petit chien ou leur chat, ils s'en tireraient pas, là, émotivement,
oui.
Là.
Oui. Donc, mais on leur doit beaucoup aux animaux.
On leur doit beaucoup, puis aussi on les mange.
Oui.
Et à un moment donné, ça va être quoi? Tu sais, vraiment de tout détruire alors que la planète a besoin de l'écosystème de la chaîne alimentaire pour survivre elle-même. Tu sais, c'est quoi? On est en train de détruire notre propre habitat.
Oui.
Mais c'est sûr qu'il faut essayer d'entrer en communication directe avec les animaux. Moi, je suis plus capable que d'autres. C'est ainsi, là. Mais enfin, il y a moyen d'essayer, tu sais, d'essayer. Comme quand on flatte un chat, on communique avec lui.
Ben, c'est,
donc, c'est
en ayant
possible, c'est que c'est possible.
Ben, oui, puis en ayant un animal de compagnie, c'est là qu'on découvre là, que les animaux, ils ont des personnalités, puis on peut communiquer avec eux autres. C'est pareil, sont pareils comme nous, dans le fond.
Moi, c'est ce que je pense, ils sont comme nous. Et puis, que vraiment, on se comporte comme des imbéciles collectivement. Vraiment. Tu sais, on a un cerveau, puis c'est comme s'il n'était pas capable d'anticiper. Pourtant, le cerveau le sait, là, qu'il y a un problème avec les changements climatiques, avec la perte des écosystèmes et tout. Mais ça ne se rend pas à l'émotion, ça ne se rend pas à l'humanité des êtres, parce que ça ne fait pas leur affaire, eux autres. C'est en amenant de la pipeline, là, ça crée des emplois. Ce ne sont pas nos valeurs. Et la raison pour laquelle les gouvernements investissent moins en environnement, c'est vraiment parce que c'est pas rentable. Mais cela dit, tout ça avec une perspective de destruction planétaire.
T'sais, pour revenir aux animaux domestiques, là, il y a un petit bout là, ben, que vous parlez du chien. Là, on dit on accuse les chiens de servilité, mais ils mènent leur bac à leur manière. La sinistre condition d'animal domestique à la merci de l'acquéreur exige une part de ruse pour combler ses besoins, protéger ses amours, maintenir sa position hiérarchique et préserver son équilibre mental auprès des instables humains. Trop chanceux si le propriétaire se révèle à peu près civilisé, sans le battre, le négliger, l'affamer, ni l'abandonner un soir de brosse. C'est que, bon, il y a des animaux, c'est épouvantable, des animaux de compagnie qui sont malmenés, mais en soi, la condition d'animal de compagnie, c'est une forme d'emprisonnement, dans le fond. Là. Alors, non seulement on leur doit beaucoup, mais on leur doit beaucoup de respect parce que l'animal, il donne sa vie pour celui qui est propriétaire. Non?
Ils sont dénaturés, en fait. Oui. Et puis, c'est pour ça qu'ils comprennent de mieux en mieux. Au fil des millénaires, ils ont appris à connaître l'humain, qui décodait peut-être, semble-t-il, moins au départ. Là. Ils peuvent décoder des expressions, même des mots, tu sais. Savoir ce que l'autre leur veut. Ils sont obligés parce que oui, ils sont nos prisonniers. Et c'est sûr qu'il y a des animaux domestiques qui pourraient plus vivre à l'état sauvage. Ça fait trop longtemps qu'ils ont eu des mutations. Mais il y a des animaux sauvages, vraiment, qui sont spirituels. Mais sans réflexion, c'est ça l'histoire, là. Sans réflexion derrière, puis aussi sans sentir la sensibilité. Moi, je me dis toujours que si on parvient à sentir la sensibilité des animaux, on entre en contact avec eux. Tu sais, c'est d'être là comme des genres, là, tu sais, qui sont trop fiers d'eux-mêmes, et puis tout le monde est inférieur, mais pas juste, comme je disais, c'est pas juste les animaux, c'est toute forme de fragilité. Des fois, c'est les enfants qui écopent. Hein. Et l'animal. Mais enfin, tout le monde qui est fragile, des fois, c'est la femme, là, tu sais, qui est moins forte physiquement que l'homme. Et donc, c'est le rapport à la vulnérabilité qu'on comprend mal et qu'il faut développer et entrer dans notre propre fragilité d'abord. Et après ça, on entre en contact avec les animaux. Mais si on refuse notre fragilité, c'est sûr. On va créer des murs comme on en crée avec les êtres humains qu'on juge fragiles, tu sais.
On va prendre une dernière petite pause musicale. Puis au retour, ben, on va conclure l'émission.
Salut, ma vieille copine, la terre. T'es fatiguée, ben nous aussi. C'est pas des raisons pour faire des manières quand y a le soleil qui fait crédit. Salut, ma vieille copine à la terre. Il y a une étoile au-dessus de Paris qui m'a fait de l'œil la nuit dernière. Ma vieille copine, la terre. Et pendant ce temps-là, tu dormais enroulé dans les bras de ma mélancolie. Pendant que je déambulais comme un oiseau blessé dans la nuit si jolie. Salut, ma vieille copine, la terre. Dans tes jardins, il y a des soucis qui font de beaux printemps à la misère et de jolies fleurs pour les fusils. Salut, ma vieille copine, la terre. Il y a une étoile au-dessus de Paris qui m'a fait de l'œil la nuit dernière. Ma vieille copine, la terre. Et
toi, pendant ce temps, tu peinais à charrier sur ton dos des continents de misère. Pendant que le soleil se torrait dans sa maison toute bleue pour se refaire une lumière. Salut, ma vieille copine à terre. Il y a des diamants qui font leur nid en se fichant pas mal de tes frontières. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Salut, ma vieille copine la terre. Il y a une étoile au-dessus de Paris qui m'a fait de l'œil la nuit dernière. Ma vieille copine la terre. Si tu voulais bien enfoncher deux ou trois, ça pourrait faire une drôle de lumière. Et mettre au front de la société des diamants qu'on pourrait tailler à notre manière. Bonjour, ma vieille copine la terre. Je te salue avec mes mains, avec mes lèvres, avec ma joie, avec tout ce que je n'ai pas.
Alors, c'était René-Claude qui chantait Léo Ferré. Une chanson, on pourrait dire, même écologique. Là, le titre de la chanson, c'est « Il y a une étoile ». Léo Ferré qui parlait de la Terre. Puis pourquoi j'ai mis ça, c'est que vous êtes une grande fan de Léo Ferré. Puis vous avez une anecdote dans votre livre concernant Léo Ferré.
Ben oui, c'est assez comique. C'est que au début des années 90, c'est la dernière fois que Ferré est venu au Québec. Et puis, il était déjà diminué, il est mort un an après. Et là, donc, j'avais rendez-vous pour l'interviewer, pour le devoir, dans sa chambre d'hôtel. Et puis là, moi, j'étais bien impressionné parce que, d'abord, mes parents écoutaient ça en boucle, je connaissais son répertoire par cœur, je connaissais aussi tous les poèmes d'Aragon qu'il chantait. En fait, j'avais tout appris ça à force des enfants. Donc, j'étais impressionné. Puis là, je m'étais dit, mon Dieu, Léo Ferré. Et là, d'un coup, j'arrive dans la chambre, puis là, il me regarde, puis il dit, c'est affreux, il dit, elle est là. Et là, il me montre qu'il y avait une araignée au plafond, carrément une araignée dans le plafond. Et là, bon, il était arachnophobe, alors là, il avait peur. Et puis là, je me suis mis à le consoler comme un petit enfant. Et puis, tout à coup, c'était le contraire de ce que j'avais anticipé. C'est moi, je me disais, la statue du commandant, mais non, pas du tout. Il était une fragilité absolue. Et là, après ça, il s'est même chanté des chansons. Alors, écoutez, c'était le bonheur. Je ne sais même plus ce que j'ai écrit dans cette entrevue-là. Je n'ai même pas raconté ça. Parce que...
Puis vous aussi, vous avez votre propre vulnérabilité. C'est,
moi, ma vulnérabilité est partout.
Puis, par rapport aux animaux aussi, vous avez les vers de terre que vous n'aimez pas.
C'est pas de leur faute. Non. C'est vraiment que j'ai une phobie. Mais c'est une nouvelle que j'ai voulu comique, là, qui est apocalyptique. Oui. D'ailleurs, elle finit sur l'apocalypse. Juste un parcours du combattant de la fille qui est phobique là, depuis l'enfance et puis qui à un moment donné, se fait kidnapper par un ver. Voilà, c'est l'apocalypse.
Mais...
Je voulais dire que dans ce livre, d'abord, il a été publié chez Boréal, puis il y a des illustrations de Marie-Hélène.
Ben oui, ils sont magnifiques.
Sont admirables.
Ben oui, ils sont magnifiques.
Chaque nouvelle a son illustration. Là, c'était une commande. Boréal a été formidable. Et elle vient de Québec. Puis moi aussi, je viens de Québec. Donc, il y a beaucoup de textes qui portent sur l'enfance. Il y a énormément de textes sur Québec dans le best-seller Papillon.
Oui. Oui, c'est un. On va être obligé de terminer parce que l'émission achève, mais j'ai été voir les vers de terre, puis vous mentionnez que les vers de terre n'étaient pas ici avant. C'est tout ça, ça m'a beaucoup surpris. Les vers de terre ont été importés par les Européens. Puis, oui, dans notre potager, les vers de terre sont utiles là, parce qu'ils.
Ben, je l'explique ça, par exemple.
Oui.
C'est pas pas de leur faute. Non. Ils sont utiles. C'est moi qui ai une phobie.
Mais ce que je savais pas, c'est qu'ils sont une nuisance dans les forêts. Puis on demande, ils disaient aux pêcheurs d'éviter de lancer parce que ils décomposent tellement vite la litière que la litière qui était dans les forêts, normalement une forêt normale, là, la litière est très, très épaisse. Puis c'est comme un tapis mou. Mais quand c'est